VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce lundi 12 mars 2018. Pour vous accompagner, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
Les titres ce matin, Anne.
Au Niger, des milliers de personnes de nouveau dans la rue pour protester contre le budget 2018 qu'elles jugent antisocial.
Les tenants du régime en place n'ont plus qu'un seul choix, réviser leur loi des finances ou dégager.
La présidentielle en Sierra Leone, les deux principaux rivaux, Julius Maada Bio et Samora Camara, au coude à coude d'après des résultats partiels.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza, élevé au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir.
La Ghouta orientale en Syrie, pilonnée sans répit par le régime, l'enclave rebelle est coupée en trois.
Et comme à l'accoutumée, dans 10 minutes, un tour d'horizon des actualités économiques et sportives. Tout d'abord, le journal.
Cap sur le Niger, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Niamey, la capitale, et dans d'autres grandes villes du pays pour réclamer l'abrogation de la loi de finances 2018. De la capitale nigérienne, la correspondance d'Abdul Razak Idrissa.
Ce 11 mars 2018, les manifestants sont encore sortis plus nombreux que les précédentes fois pour dire non aux mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. C'est la cinquième journée d'action citoyenne, mais pour les organisateurs, la mobilisation ne fait que commencer. Moussa Tiangari.
Notre lutte n'a fait que commencer. Elle va se poursuivre et s'intensifier au cours des prochains jours. Nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, les tenants du régime en place n'ont plus qu'un seul choix, réviser leur loi des finances ou dégager. Nous vous donnons rendez-vous pour le 25 mars.
Le gouvernement, de son côté, selon plusieurs de ses ministres, dont celui des finances, dit n'avoir aucune intention de céder par rapport à cette pression sociale contre la loi des finances. Le 4 mars dernier, les partis politiques de la majorité ont mobilisé leurs militants pour une manifestation de soutien au président de la République et au gouvernement, notamment dans la mise en œuvre de cette loi des finances. Abdul Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Des détails avec Jean-Roger Bion.
À l'issue d'une rencontre de deux jours des cadres du CNDD-FDD à Bouyé, la région natale du président Nkurunziza, le secrétaire général du parti, le général Évariste Ndayishimiye, a annoncé que son Excellence, le président Pierre Nkurunziza, est le guide suprême du parti. Un communiqué du parti précise qu'il a été élevé au statut de Imboneza Yamao ou guide suprême éternel en Kirundi, sans préciser les implications d'une telle décision. Elle a suscité les moqueries d'opposants qui dénoncent le projet de règne à vie ou un culte de la personnalité autour de Sa Majesté, le roi Nkurunziza Ier. Un référendum constitutionnel qui lui permettrait de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans est prévu au mois de mai prochain. Le Burundi est en crise depuis que le président Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat et sa réélection en juillet 2015. Depuis, les violences ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué le nouveau code minier qui doit multiplier par 5 la taxe sur le cobalt. L'intense campagne de lobbying des multinationales n'a pas eu les effets escomptés.
En Sierra Leone, Julius Maada Bio, candidat du principal parti d'opposition à l'élection présidentielle, devance de peu Samora Camara, porte-drapeau du parti au pouvoir. La commission électorale a publié hier de nouveaux résultats partiels que nous détaille Idriss Fall.
Ces résultats annoncés hier par la commission électorale nationale portent sur le dépouillement de 75% des bureaux de vote. Julius Maada Bio, un ancien général, leader du principal parti d'opposition, obtient 43,3% des suffrages exprimés. Samora Camara, candidat du parti au pouvoir, a eu 42,6%, soit un écart d'un peu moins de 15 000 voix. Yande Yumkela, à la tête d'une nouvelle coalition, est crédité de 6,69% des voix. En cas de second tour, quasi certain, il pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux grandes formations politiques qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. Les résultats complets doivent être proclamés en début de semaine. Les électeurs se sont déplacés en masse le 7 mars pour élire leur nouveau président, vice-président, les membres du Parlement et conseillers municipaux. Le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne pouvait pas se représenter après deux mandats de 5 ans.
Également, dans l'actualité africaine, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, qui est également la tête de l'ANC, a demandé hier à l'opposant radical Julius Malema de réintégrer le parti dont il avait été exclu en 2012. Le pays doit tenir des élections générales l'année prochaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Parlement chinois a aboli hier la limitation des mandats présidentiels, donnant les mains libres à Xi Jinping pour imposer sa vision à long terme d'une superpuissance toujours plus soumise au Parti communiste. À 64 ans, le président chinois le plus puissant depuis au moins un quart de siècle pourra rester à la tête de l'État au-delà du terme prévu de 2023. Les députés de l'Assemblée nationale populaire ont donc sans surprise plébiscité un changement de la Constitution qui limitait les mandats présidentiels à 2 fois 5 ans. L'amendement fait également entrer la pensée Xi Jinping dans la Constitution, ainsi que le rôle dirigeant du Parti communiste chinois dans son article premier.
Le régime syrien poursuit ce lundi son offensive entamée il y a 3 semaines sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, après avoir bombardé hier à coups de barils d'explosifs cette région assiégée et morcelée. Nous retrouvons Jean-Roger Billon pour les précisions.
Soutenu par l'allié russe, les forces du régime de Bachar al-Assad ont continué de progresser dans l'enclave rebelle où elles ont repris le secteur stratégique de Madira en dépit d'une forte résistance des rebelles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les troupes gouvernementales ont réussi à isoler Douma, principale ville du dernier bastion rebelle, aux portes de Damas et à diviser l'enclave en 3 après 21 jours de bombardements intenses qui ont tué 1115 civils, dont 231 enfants, blessé plus de 4400 personnes d'après l'OSDH et rendu la situation humanitaire insoutenable. Pour des observateurs, le régime profite de l'impuissance de la communauté internationale et du soutien de Moscou et est déterminé à reconquérir cette région d'où des obus sont tirés régulièrement sur Damas.
Toujours. Ici, aux États-Unis, l'administration Trump va proposer son aide aux États qui souhaiteraient former au maniement des armes les enseignants ou les employés des écoles afin de prévenir des tueries comme celles ayant fait 17 morts en Floride le mois dernier. Il existe déjà à travers le pays une multitude de programmes visant à former au tir les employés des écoles, selon un responsable gouvernemental. L'idée d'introduire des armes dans les écoles pour faire face à d'éventuels tueurs, qui a été froidement accueilli par le monde enseignant, fait partie d'un plan pragmatique pour améliorer considérablement la sécurité dans les écoles, d'après la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos.
Toujours aux États-Unis, un hélicoptère de tourisme a chuté dans l'East River à New York avec à son bord 6 personnes, dont le pilote qui a réussi à se dégager de l'appareil. Les 5 passagers sont tous morts. Sur le coup ou à leur arrivée à l'hôpital, les causes de l'accident demeurent inconnues pour l'heure. Les médias locaux ont évoqué un problème de moteur.
En Colombie, la droite opposée à l'accord de paix avec le FARC est en tête des élections législatives d'hier, mais sans majorité à l'issue d'un scrutin historique auquel elle a participé l'ex-guérilla, selon des résultats partiels. Le centre démocratique du sénateur et ex-président Alvaro Uribe, farouche adversaire de l'accord avec les FARC, a recueilli le plus de voix, obtenant 19 sièges au Sénat et 33 à la Chambre des députés. Le centre et la gauche ont atteint des scores historiques, d'après ces résultats officiel portant sur plus de 90% des suffrages. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Sans plus tarder, on condense des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Morgane Guériec.
Le cacao a poursuivi sa hausse pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an, 1790 livres sterling la tonne à Londres ce vendredi. La cotation new-yorkaise a atteint jeudi 2522 dollars la tonne. Depuis le début de l'année, les prix du cacao ont gagné plus de 30%. Cette hausse a été motivée par l'offre, mais le climat chaud et sec en Afrique de l'Ouest peut perturber la production. Au Sénégal, le président Macky Sall entend promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des femmes et des jeunes, notamment par un meilleur accès de la femme à la terre. Macky Sall promet une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour un programme qui doit débuter à la fin de ce mois de mars. Et puis, le Ghana, qui envisage la mise en place d'un nouveau système de collecte des impôts afin d'augmenter ses revenus, faisant suite aux recommandations du Fonds monétaire international pour une réduction de la dette du pays, ce système devrait permettre d'élargir l'assiette fiscale sans pour autant augmenter les taxes. Ainsi, il devrait désormais inclure les entreprises du secteur informel, qui représentent plus de 2/3 des entreprises exerçant leurs activités au Ghana, selon les chiffres des autorités.
Maintenant les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour à tous.
Le trophée de la Coupe du Monde poursuit son voyage en Afrique. Après le Nigeria, c'est le Sénégal qui l'a accueilli hier.
C'était en présence de l'ancien champion du monde, Puissant Karambeu, du ministre des Sports, Maktaba, de l'ancien international Ella Diouf, du sélectionneur national Aliou Cissé et du président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor. Il est ensuite acheminé au Palais de la République, moment choisi par le chef de l'État Macky Sall de réitérer sa volonté de mettre ce qu'il faut pour que les Lions de l'Enteranga reviennent de Russie avec une victoire au nom du Sénégal et de l'Afrique. Précisons que le trophée sera exposé demain au Grand Théâtre pour le grand public avant de prendre la direction d'Abidjan.
Au Soudan du Sud, un Algérien est nommé sélectionneur.
Oui, et il a pour nom Hassène Haït Abdelmalek, déjà passé sur le banc du Burundi, de Djibouti ou encore du Djoliba AC de Bamako. Le technicien algéro-allemand rebondit au Soudan du Sud. Il a officiellement été nommé sélectionneur de la toute jeune nation, où il tentera d'entretenir le rêve d'une qualification à la CAN 2019.
Football toujours, mondial féminin des moins de 20 ans, le Ghana affrontera la France en ouverture.
Le tirage au sort de cette compétition a eu lieu et l'une des équipes qui vont représenter le continent, le Ghana, défiera la France en match d'ouverture. Les Ghanéennes joueront également contre les Néo-Zélandaises et les Néerlandaises. Le second représentant africain, le Nigeria, affrontera l'Allemagne, la Chine et Haïti. Cette Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, on le rappelle, se tiendra du 5 au 24 août prochain en France.
Au Bénin, la Fédération de triathlon a un président.
Exactement, son nom Richard Assar. Il a été porté à la tête de cette fédération à l'issue d'une AG constitutive. Après l'adoption des statuts et règlements, le premier comité exécutif de la Fédération béninoise de triathlon a vu le jour. C'était hier à Cotonou. Le tout nouveau président de cette fédération a livré son programme d'activité. On écoute Richard Assar.
Je voudrais vous dire tout simplement que le bureau que je dirige aura trois actions à mener. La première, c'est d'organiser le championnat national d'ici quelques mois de triathlon. La deuxième action, c'est de pouvoir populariser le triathlon dans tout le Bénin. Et notre troisième action, c'est de faire en sorte que le triathlon, qui a aussi d'autres disciplines sous, qu'on appelle le diathlon et le back and run, ces disciplines-là soient des disciplines connues, réservées à nos jeunes enfants et réservées à nos personnes adultes.
Volleyball à présent avec la Coupe d'Afrique des clubs champions chez les dames. La compétition se déroule actuellement au Caire en Égypte.
Oui, et après la phase de groupe, place aujourd'hui au quart de finale avec de belles oppositions. Al Ahly du Caire va en découdre avec les Nigeria de Customs. Les tenantes du titre tunisiennes de Carthage joueront le second représentant égyptien Shams. Les deux clubs kenyans toujours en course, à savoir Prison et Pipeline, affronteront respectivement les Rwandaises de Revenu Authority et les Camerounais de Bafia. Précisons que ce championnat d'Afrique de volleyball féminin a démarré le 6 mars pour prendre fin le 15 mars prochain. Et on finit avec la NBA, le championnat nord-américain de basketball. Les résultats de la nuit.
Oui, le champion NBA en titre, Golden State, a concédé au Minnesota une deuxième défaite consécutive, 109-103, en l'absence de son meneur vedette Stephen Curry, touché à une cheville. Les Raptors de Toronto, eux, ont dominé les Knicks de New York, 132-106. Ailleurs, Chicago Bulls, 129. Atlanta Hawks, 122. Utah Jazz, 116. New Orleans Pelicans, 99, Sacramento Kings 104, Denver Nuggets 130, Houston Rockets 105, Dallas Mavericks 82, Indiana Pacers 99, Boston Celtics 97, Philadelphia 120, Brooklyn Nets 97, Cleveland Cavaliers 113, Los Angeles Lakers 127.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous passons maintenant à notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Jacques Aristide au micro en direct de Washington. Un grand merci pour votre fidélité. Après l'Éthiopie, Djibouti et le Kenya, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est attendu ce lundi à N'Djamena au Tchad. Les Tchadiens n'ont toujours pas digéré la décision de l'administration Trump en septembre dernier d'inclure leur pays parmi ceux dont les ressortissants sont interdits d'accès au territoire américain. Qu'attendent donc les Tchadiens de ce séjour du patron de la diplomatie américaine? Notre correspondant André Kodmadjingar a tendu son micro à quelques habitants de la capitale.
À mon niveau, j'aimerais que la relation entre les deux pays soit rétablie rapidement et qu'on nous dise à quel niveau le Tchad a failli pour nous permettre de rectifier les tirs. Parce que après avoir traité ou bien dire à certains, d'empêcher à certains pays d'accéder aux États-Unis, cela a eu des répercussions. Et nous savons tous qu'au Tchad, il y a des mouvements où les gens ont brûlé même le drapeau américain. Et c'est des situations comme ça, on n'a pas envie de les vivre.
Les impérialistes, ils viennent pour leur propre intérêt. Et par rapport à ce que le président américain l'a dit, c'est propre à nous les Africains même. Nous sommes auteurs de nos erreurs et c'est normal. Ce qu'ils le disent, ça nous fait mal, mais il y a certaines vérités qui sont bel et bien là. Moi, je ne vois pas ce que l'autre, le secrétaire d'État américain, peut apporter aux citoyens lambda.
Nous sommes dans un monde globalisant. On dépend des uns et des autres. Donc, sa visite au Tchad est une très bonne chose. Mais je n'attends rien de concret parce que le développement de l'Afrique en général et le développement du Tchad en particulier dépend des Africains et des Tchadiens et Tchadiennes que nous sommes.
Je n'ai pas d'attente parce que s'il arrive, parce qu'il nous a trahis, il nous a dit qu'on est des djihadistes les Tchadiens, qu'on est des Boko Haram. Et s'il décide aujourd'hui à venir, on peut lui dire bonne arrivée puisque nous, on ne refuse personne. Il va venir, il voit les autorités et ils n'ont qu'à poser. Mais vraiment, sa façon de nous a trahis dans tous les pays humiliés, ça nous fait du mal.
On écoutait un micro-trottoir sur les attentes de l'étape tchadienne du secrétaire d'État américain Rex Tillerson aujourd'hui à N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Cap maintenant sur le Mali, doutes et incertitudes planent sur la tenue de la présidentielle dont le premier tour a été fixé au 29 juillet prochain. En effet, ils sont nombreux les Maliens qui croient que la situation sécuritaire n'est pas pour aider le bon déroulement de ce scrutin. Malgré ces appréhensions, une délégation parlementaire de l'Union européenne en mission récemment à Bamako s'en est tenu au respect du délai constitutionnel. De la capitale malienne, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Kassim Traoré.
Un déplacement des autorités maliennes au centre et nord du pays nécessite une forte mobilisation de l'armée malienne. L'insécurité, voire l'instabilité, a gagné plusieurs localités. Avec l'élection présidentielle qui s'approche, cela donne à réfléchir. Jacques-Henri Diakonaté, du parti PS Yéloukroua.
Il convient de noter que la majeure partie de nos concitoyens sont dans l'attente des cartes NINA, qui constituent aujourd'hui des cartes d'électeurs. Les représentants de l'État sont aujourd'hui absents dans plusieurs localités du nord du pays et même de certaines localités du centre. C'est pour toutes ces raisons évoquées que la jeunesse malienne reste quand même dubitative par rapport aux échéances électorales à venir.
Une mission des parlementaires européens vient de séjourner à Bamako. Les députés européens veulent accompagner le processus politique en cours et la réussite tant en termes d'organisation que de déroulement des élections à venir. Madame Cécile Kaïchtu-Guényen, membre du Parlement européen co-président, faisant fonction de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPIE.
Notre mission avait pour objectif d'un côté de pouvoir prendre toutes les informations pour ce qui concerne la situation politique, économique, sécuritaire, mais humanitaire aussi, avec un but bien précis. Comment accompagner le Mali et les Maliens vers des élections apaisées, crédibles et transparentes. Et des informations qu'on emmène avec nous nous permettront de toute façon de pouvoir soutenir ce peuple qui est très engagé.
Le respect du délai constitutionnel est le souhait de la société civile malienne. Mais elle souhaite dans un pays apaisé. Tchakité Khadija Fofana, citoyenne.
La situation sécuritaire au nord nous préoccupait beaucoup, mais après c'est venu au centre et là c'est devenu carrément une insécurité chronique généralisée dans tout le pays. Les hautes autorités et aussi les amis du Mali, s'ils sont vraiment des amis du Mali qui se donnent la main pour que ces élections puissent se tenir dans de bonnes conditions, dans la plus grande transparence.
Le gouvernement dit avoir organisé une révision exceptionnelle des listes électorales, la répartition et l'emplacement des 23 000 bureaux de vote. Le gouvernement a confié l'audit du fichier électoral à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et cela doit se faire en avril prochain. Soumerou Boubey Maïga, Premier ministre.
Sur les élections, je ne veux laisser aucun doute dans l'esprit. Nous ferons les élections quoi qu'il en soit. Et ça, donc, vraiment, préparez-vous, préparez les gens à voter pour qui ils veulent. Mais nous ferons les élections. Ça, je ne veux laisser aucun doute sur ça. Et si Bekaye va être le seul candidat, ben, nous ferons les élections avec lui. Ce sera la volonté du peuple.
Pour ce qui est de la sécurisation du pays, des actions sont en cours. Mais les attaques des groupes terroristes se poursuivent aussi au centre et au nord. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En République centrafricaine, la situation humanitaire est catastrophique. À Bria, dans le centre-est du pays, les récurrents affrontements entre groupes armés, dont les ex-Seleka et les anti-Balaka, ont plongé la région dans le chaos. Aujourd'hui, 80% de la population sont confinés à un site de déplacés au centre de Bria. Sur place, le reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Depuis le déclenchement des hostilités en octobre 2016 dans cette localité, Bria ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. Fractionnée en trois, chaque portion est contrôlée par factions ex-Seleka d'une part et anti-Balaka d'autre part. La fréquence des violences a fait fuir plus de 73 000 personnes sur le site des déplacés du PK3, juxtaposé à la base de la MINUSCA. Édouard a fui son village à 35 km pour se réfugier sur ce site.
Vraiment, pour vivre, c'est très difficile ici. Parce qu'on n'a pas de famille. Grâce à l'église, nous nous sommes venus se cacher. Mais pour avoir de quoi à manger. Et même, on a des enfants, on a des familles. Mais nous vivons vraiment très souffrant pour déplacer ici. Et aller à peu près 2 ou 3 km chercher de quoi vivre. Surtout nous les hommes, on te tire. Tu ne peux même pas avancer. Et grâce aux femmes qui vont au champ et aller à la brousse, chercher des fagots, venir vendre pour que les enfants puissent avoir quelque chose à vivre.
Les plusieurs dizaines de milliers de déplacés massés dans ce camp espéraient vivre en sécurité, mais ici, en réalité, c'est un autre calvaire. Les anti-Balaka y règnent en maître et dictent leurs lois aux occupants. Ce jeune homme exaspéré témoigne.
Nous sommes vraiment sans protection. La MINUSCA est là, n'assure pas vraiment notre protection en tant que telle. Vous savez, les anti-Balaka ne sont pas de force conventionnelle. Donc, à tout moment, ces gens se débordent. Eux, ils lancent des couvre-feu à partir de 19h. Et quand c'est aux environs de 20h qu'une personne a été appréhendée automatiquement, eux, ils commencent à tabasser cette personne-là. Même si c'est un cas d'assistance sociale, eux, ils ne comprennent pas automatiquement.
Même si, pour le moment, aucun affrontement n'est en cours dans la région, des cas d'assassinats isolés continuent d'être enregistrés. L'unique hôpital de la ville fait face à d'énormes difficultés. Docteur Marus Kossone, médecin-chef, énumère les mots qui minent son service.
Il y a l'insécurité, il y a le problème de matériel qui se pose aussi. Par exemple, au niveau de l'hôpital de Bria, nous n'avons pas d'échographie. L'hôpital n'a pas un laboratoire bien équipé avec tous les réactifs que nous pourrons mener des investigations pour prendre en charge nos patients. Du côté personnel, je pense que compte tenu de l'insécurité, nous n'avons pas tous les personnels affectés au niveau de l'hôpital de Bria. La plupart sont retournés sur Bangui.
Mi-février dernier, la coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine, Najat Rochdi, s'est rendue à Bria, touchant du doigt la situation dramatique. Elle a appelé à des actions humanitaires de grande envergure en faveur de la population. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24h sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Direction le Togo à présent, pour vous proposer un gros plan sur un incubateur réservé aux jeunes entrepreneurs africains qui veulent investir dans les énergies renouvelables. La plateforme, qui a pour nom Energy Generation Academy, accueille déjà des projets dans le domaine énergétique. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kay Lorson.
Nous sommes au centre d'incubation Energy Generation Academy, situé à Kégué, dans la banlieue nord de Lomé. Cet incubateur est réservé aux jeunes Africains porteurs de projets dans le domaine énergétique. La création de Energy Generation Academy a été suscitée par des obstacles rencontrés par sa promotrice lors de l'exécution d'un projet d'électrification à base d'énergie solaire en milieu rural. Astria Fataki, présidente d'Energy Generation.
Il y a quelques années, j'avais créé une association qui avait pour objectif de participer à l'électrification rurale à travers l'installation de petits kiosques solaires. En réalisant cette activité, on a été confronté à un certain nombre d'obstacles, le plus important étant lié au fait que le matériel était importé. Donc ça a posé des problèmes, surtout en termes d'appropriation de la technologie par les bénéficiaires. Et donc ça posait effectivement des problématiques de maintenance et autres. L'idée à un moment, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut participer à l'électrification du continent tout en utilisant des ressources locales.
Les étudiants de Energy Generation Academy venus de différents pays d'Afrique sont des lauréats du Africa Energy Generation Prize. C'est le projet de valorisation de déchets organiques qui a permis à la béninoise Ghislaine Adam-Menou d'être sélectionnée.
Je travaille sur la production et la valorisation du biogaz. Vu le changement climatologique, il faut penser aux énergies renouvelables qui protègent l'environnement. Donc la production du biogaz consiste à méthaniser ces déchets produits dans les ménages, dans les fermes, dans les abattoirs pour pouvoir avoir de l'énergie thermique pour la cuisson et puis de l'électricité.
Abiola Jala du Nigeria, pensionnaire du même centre, développe lui une solution énergétique à même de contribuer à la lutte contre le paludisme. L'Afrique est confrontée au problème de paludisme. Ici, nous développons une solution qui pourra apporter de l'énergie propre, mais aussi éradiquer cette épidémie. Fondamentalement, nous développons un système d'énergie solaire à usage domestique, intégré à des produits qui pourront permettre de réduire la prolifération des moustiques et de lutter contre le paludisme. Je crois que seul l'accès à l'énergie ne peut pas réduire la pauvreté sur le continent. Nous devons prendre en compte d'autres défis tels que la lutte contre le paludisme. Guillaume Quelin, l'un des formateurs à Energy Generation Academy, nous explique comment se fait l'encadrement de ces jeunes dans ce centre.
On apporte aux porteurs de projets un cadre qui leur permet de développer leur projet. Il y a beaucoup d'autonomie qui est laissée aux porteurs de projets. On ne les voit pas comme des étudiants. Et donc, du coup, c'est eux qui sont maîtres de leur temps ici et qui sont maîtres, en fait, de l'évolution de leur projet. Nous, on est là pour accompagner leur idée, accompagner leur motivation, pour essayer de leur donner des expertises techniques et aussi pour suivre l'avancement petit à petit de leur projet.
À la fin du cursus, chaque pensionnaire est soumis à un test et les trois meilleurs projets sont primés selon leur pertinence et leur portée sociale. Cet incubateur est financé par des partenaires au rang desquels la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD, École Lighting Africa, ou encore Greenwich Partners. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique à Washington DC. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel, au programme de la bonne musique comme d'hab. Et notre sujet de cette semaine, comment différencier bonne et mauvaise critique? Comment différencier bonne et mauvaise critique? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31 ou contactez-moi alors sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de la Appelez-nous aussi au 001 202 205 26 33 ou au 001 202 619 79 25. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Eh bien, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Anne Albertson. Anne, qui était également avec nous dans la partie actualité. Notre collègue Daryl Smith était à la technique. Mille merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Un petit clin d'œil à mes compatriotes mauriciennes et mauriciens qui fêtent le 50e anniversaire d'indépendance du pays en ce lundi 12 mars. Voilà, c'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Take care.